Le 18-20 commence comme chaque soir avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 18 janvier avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec des regrets.
Oui, les regrets de Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, sous le feu des critiques après les révélations autour de ses vacances à Ibiza. J'aurais dû choisir un autre lieu, je regrette la symbolique, a-t-il admis devant les députés. Nous y serons dans un instant. Le prix du gasoil au plus haut depuis près de 4 ans. Plus d'1,60€ le litre en moyenne la semaine dernière. Les transporteurs routiers s'inquiètent pour la trésorerie de leur entreprise. On les entendra. À suivre aussi le plus gros investissement de l'histoire du jeu vidéo. Microsoft rachète Activision pour près de 70 milliards de dollars. L'AFP porte plainte pour menace de mort après la violente manifestation anti-pass de samedi. Les Tonga ravagés. Les dernières photos satellites sont inquiétantes. Et pour finir, un jeune homme la tête dans les étoiles. Portrait de l'un des 1300 candidats à la relève de Thomas Pesquet.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir je vous emmène en Turquie grâce au livre signé de la correspondante de France Inter, Anne Andloer, et vous comprendrez beaucoup de choses de ce pays. D'où vient le virage totalitaire d'Erdogan? Est-il impérialiste? Est-il expansionniste? Où emmène-t-il la Turquie? Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Être noir en France, c'est quoi? Nous sommes heureux d'être partenaires d'un documentaire que vous verrez ce soir sur France 2 qui parle des clichés, qui parle des sportifs noirs, des rappeurs, du racisme ordinaire, mais aussi qui parle d'optimisme qui est parfois joyeux. Il parle aussi d'une France dont le regard parfois a changé. Vous nous raconterez votre expérience. Noir en France est dans le téléphone sonne avec vos questions et témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le ministre de l'Éducation reconnaît donc une erreur.
Jean-Michel Blanquer a tenu à venir s'expliquer cet après-midi devant la représentation nationale, devant les députés, suite aux informations publiées hier sur ses vacances à Ibiza. Le ministre en congé au Baléares, la veille de la rentrée scolaire de janvier, communiquant sur le nouveau protocole sanitaire depuis son lieu de villégiature, accusé de légèreté par les syndicats et visé par de nouvelles demandes de démission de l'opposition. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir.
En direct de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer a donc fait aujourd'hui un petit mea culpa.
Oui, première à prendre la parole alors que fusent les boutades. Il est où le DJ, entend-on dans l'hémicycle? C'est la députée LR Virginie Duby-Muller qui interpelle Jean-Michel Blanquer. Pas de demande de démission, mais une vive critique du bilan du ministre après 2 ans de pandémie.
Monsieur le ministre, votre gestion de la crise sanitaire à l'école vire au fiasco et nous interroge quant à la légèreté avec laquelle vous l'abordez. Votre faute politique n'est pas d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances en présentant plus tôt et de manière concertée votre protocole.
Entouré par ses collègues du gouvernement qui font bloc, en apparence en tout cas, Jean-Michel Blanquer se lève, prend le micro, se défend. Oui, il avait le droit de prendre des vacances, évidemment, crie-t-on dans les rangs de la majorité. Non, ces décisions n'auraient pas été différentes si elles avaient été prises ailleurs. Ce pilier du gouvernement tient bon sur le fond, concède juste une erreur symbolique.
Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, depuis 2 ans, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
Voilà, Jean-Michel Blanquer ne dira pas un mot de plus. Le message est passé. Il reste soutenu par le président avec qui il a déjeuné ce midi.
Anne Souhaitement en direct de l'Assemblée nationale avec Éric Audra au moyen technique. Rappelons que les syndicats enseignants appellent de nouveau à la mobilisation jeudi prochain, le 20 janvier. Si le sort du soldat Blanquer est regardé de près par l'exécutif, il y a des chiffres aussi qui sont surveillés comme le lait sur le feu. La hausse des prix de l'essence qui ne cesse de battre des records. 1,62€ le litre de gasoil la semaine dernière, un record depuis 2018, depuis les Gilets jaunes. Un coup dur, bien sûr, pour les automobilistes, mais aussi pour les entreprises, et en particulier pour les transporteurs routiers, dont la trésorerie est aujourd'hui très affaiblie. Écoutez la déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers, Florence Berthelot.
Aujourd'hui, les camions roulent principalement au gazole et certains vont vers la transition énergétique à travers le gaz. Or, il se trouve que ces deux énergies augmentent considérablement. Sur un an, c'est plus de 30 centimes sur un litre de gazole. Et quant au prix du gaz, le gaz naturel véhicule, qui sont pas du tout dans les tarifs réglementés, c'est 400% d'augmentation. Donc on s'aggrave très lourdement les trésoreries d'entreprises qui sont quand même toujours en tentative de sortie de crise et très fragilisées. Concernant le prix du gaz, on sait que le gaz, il est aujourd'hui indexé sur l'électricité, c'est pas très cohérent. Puis ensuite, il y a du biogaz qui s'envole autant que le gaz qui n'est pas issu de la méthanisation. Donc il y a certainement des choses à revoir pour décorréler un certain nombre de prix de l'énergie qui en fait se suivent, mais sans logique.
La déléguée générale des transporteurs routiers avec nos confrères de France Info. L'actualité Covid, en bref, la dose de rappel qui s'élargit aux adolescents vivant aux côtés de personnes fragiles. Les 12 à 17 ans pourront y recourir s'ils vivent avec des immunodéprimés ou des personnes vulnérables et non vaccinées. Une étude française confirme la sécurité des vaccins Pfizer et Moderna. Selon l'agence du médicament, les vaccins à ARN messager n'augmentent pas le risque de problèmes cardiovasculaires graves chez les moins de 75 ans. En revanche, les vaccins à adénovirus, AstraZeneca, Janssen apparaissent associés à une légère augmentation du risque d'infarctus du myocarde chez les adultes dans les deux semaines suivant l'injection. Enfin, cette mise en garde de l'OMS, la pandémie de Covid est loin d'être terminée, selon son directeur général. Ne vous méprenez pas, lance-t-il. Omicron provoque des hospitalisations, des décès et même les cas les moins graves submergent les établissements de santé.
C'est un séisme dans l'industrie du jeu vidéo.
Microsoft et sa console Xbox viennent d'officialiser le rachat d'une entreprise pour un montant jamais atteint dans l'histoire de ce secteur du divertissement. Écoutez bien, 69 milliards de dollars pour acquérir Activision Blizzard, éditeur américain de Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush, de véritables blockbusters du jeu vidéo. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Alors pourquoi Microsoft casse-t-il donc sa tirelire ?
Eh bien c'est simple Sébastien, vous êtes monsieur Microsoft. Vous avez lancé il y a 5 ans une sorte de Netflix du jeu vidéo, une plateforme donc pour jouer en ligne, télécharger des jeux en ligne illimités, plateforme qui compte déjà 25 millions d'abonnés. Et dans cette guerre que vous menez, que Microsoft mène à Sony et à sa PlayStation, vous avez besoin de faire venir un maximum de nouveaux abonnés sur cette plateforme. Donc en rachetant aujourd'hui l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo au monde, Microsoft prend une très grosse longueur d'avance sur ses concurrents, récupère des licences parmi les plus populaires, vous les avez citées, achète en cash le catalogue donc d'Activision Blizzard. Microsoft s'assure une exclusivité sur tous ces jeux, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush ou encore Diablo, tous bientôt disponibles en ligne sur cette plateforme et non plus forcément sur d'autres consoles comme la PlayStation de Sony. L'addition 69 milliards de dollars paraît hors norme, mais le coût est magistral. Personne ne soupçonnait un achat de cette dimension dans le secteur. Avec cette nouvelle écurie de jeux bientôt disponible sur la plateforme, Microsoft compte faire venir plusieurs millions de nouveaux abonnés.
Un rachat salué par les marchés financiers. L'action d'Activision s'est littéralement envolée à la bourse de Wall Street, plus 37%. À l'inverse, au chapitre des entreprises qui font grise mine, il y a EDF, lourdement mise à contribution par l'État actionnaire pour limiter la hausse des prix de l'électricité. Une spoliation scandaleuse, dénoncent les syndicats qui appellent tous à faire grève le 26 janvier prochain. Je partage votre émotion, a écrit pour sa part le PDG d'EDF dans un message interne. Revenons maintenant sur les violentes manifestations anti-pass sanitaire de ce week-end. C'était samedi à Paris, deux journalistes de l'agence France Presse menacés de mort et un des agents de sécurité qui les protégeait blessé à la tête, tout cela lors d'un rassemblement organisé par le mouvement des Patriotes de Florian Philippot. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
L'AFP a déposé plainte cet après-midi.
Oui, l'avocat de l'AFP est allé remettre en main propre la plainte de l'agence de presse à la procureure de la République à Paris. Une plainte effectivement pour menace de mort et pour entrave à la liberté d'informer. Nous n'avons pu joindre en revanche la société de sécurité qui emploie les deux agents de protection rapprochée, vous l'avez dit, qui ont protégé les deux journalistes et se sont pris des coups de matraque, des coups de pied. L'un d'eux a même reçu une bouteille en pleine tête qui lui a entaillé le cuir chevelu. Pour l'heure, le parquet de Paris n'a pas encore statué sur les suites à donner à cette plainte.
Et lors de ce rassemblement samedi, un autre incident interroge les enquêteurs. Emmanuel, 200 membres de l'ultra-droite pris en photo avec les bras tendus, faisait-il le salut nazi ?
Alors le ministre de l'Intérieur avait tweeté, dénoncé à partir d'une image arrêtée ce qui pouvait faire penser à un salut nazi, effectivement. Il s'agissait en réalité d'un clapping, des applaudissements saccadé comme lors d'un match de football. On le voit bien sur la vidéo publiée par Florian Philippot, mais cela reste un clapping très particulier avec une position des bras qui se déplie, les mains tendues à l'horizontale, qui n'a rien à voir avec le clapping qui fait référence, celui des supporters islandais à l'Euro de football à Moscou en 2020 ou celui des supporters du club de Lens par exemple, les bras ouverts, les paumes de main qui se font face et qui se font face donc avant de claquer en rythme.
Emmanuel Leclerc du service police-justice. Le journaliste star de BFM TV soupçonné d'agression sexuelle. Après la plainte d'une journaliste de 33 ans, le parquet de Paris a donc décidé d'ouvrir aujourd'hui une enquête préliminaire contre Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin qui nie les faits, il présentera ce soir l'émission politique La France dans les yeux avec comme invité Valérie Pécresse. La candidate à la présidentielle a demandé à formuler un propos introductif auquel le journaliste ne devra pas répondre.
Les images satellites montrent les îles Tonga dévastées après l'éruption et le tsunami d'il y a 3 jours.
Difficile de se faire une idée précise de l'ampleur des dégâts. À ce stade, 3 morts à l'heure qu'il est. Les îles sont en effet coupées du monde. Depuis samedi, le câble internet sectionné depuis l'énorme éruption d'un volcan dans cette partie du Pacifique avec un panache de fumée haut de 30 km et des vagues de plus de 15 mètres. Depuis 3 jours, les informations tombent au compte-gouttes et les dernières images, Olivier Poujade, laisse apparaître des paysages dévastés.
Les premières images diffusées proviennent des satellites militaires néo-zélandais et révèlent des pans entiers de terre noircie brûlée par les cendres, des dégâts jugés catastrophiques par les analystes sur les îlots les plus proches de l'éruption. Celui d'Apaïa, formé par une partie de la crête immergée du volcan, est aujourd'hui presque totalement sous les eaux. Un peu plus loin dans l'archipel, certains villages entièrement rasés n'apparaissent plus sur les dernières prises de vue sans que l'on sache si les habitants ont pu être évacués avant l'éruption. Les dégâts dans la capitale Nuku'alofa semblent en revanche limités. Recouverte par une épaisse couche de cendres, la piste de l'aéroport n'est toujours pas opérationnelle, mais plusieurs tonnes de matériel de survie sont en train d'être acheminées par voie maritime par des navires australiens et néo-zélandais. L'onde de choc a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et déclenché un tsunami ayant touché les côtes chiliennes, équatoriennes, provoqué une mini-marée noire au Pérou et des perturbations au Japon et aux États-Unis, les conséquences de la plus violente éruption enregistrée ces 30 dernières années.
Olivier Poujade. En bref, encore à l'étranger, un rappel avec l'élection de la Maltaise Roberta Metsola à la présidence du Parlement européen. Cette conservatrice qui s'engage à défendre la position officielle de l'institution, y compris sur le droit à l'avortement, auquel elle est personnellement opposée.
Et puis on termine, Sébastien, avec peut-être le futur Thomas Pesquet.
Oui, l'Agence spatiale européenne a lancé son nouveau recrutement depuis déjà plusieurs mois. 23 000 candidats au total qui rêvent d'aller dans l'espace. Puis il y a eu la première sélection. Sans pitié, il ne reste que 6%, 1362 candidats exactement, une sélection presque paritaire, 40% de femmes, 60% d'hommes. Place maintenant au deuxième tour. À terme, ils ne seront que 4, 5 ou 6 candidats maximum à être retenus, et parmi eux, peut-être l'un des futurs vainqueurs, comme Clément Hubert, auquel s'est confiée Sophie Becherel.
Pugnace, chaleureux et calme.
Voilà les 3 adjectifs qu'utilise Clément Hubert quand on lui demande de définir sa personnalité. Cet ingénieur de 29 ans, passé par Supaéros, travaille dans une entreprise biomédicale. Il possède un brevet de pilote d'avion, a fait un passage par Saint-Cyr et s'est récemment mis à la plongée et aux Russes. Une fois la première sélection sur dossier passée, il a attaqué le deuxième round avec détermination. Les tests psychotechniques ont occupé ses soirées, ses week-ends et même ses pauses déjeuner. Écoutez Clément Hubert.
Les tests psychotechniques sont des tests qui visent à tester notre acuité visuelle, notre capacité à mener plusieurs tâches de front, notre mémoire. Compte tenu de la sélection drastique et des épreuves qui nous sont imposées, bien sûr, il faut se préparer si on veut se donner les moyens de réussir. Typiquement, pour les tests psychotechniques, je les ai beaucoup préparés, une 20aine d'heures par semaine.
Avant Noël, Clément Hubert a reçu une lettre, acceptée pour le 3e volet de la sélection, les tests psychologiques. Là encore, il ne laissera rien au hasard. Gentleman, il affirme qu'au terme du processus et à compétences égales, il acceptera de laisser sa place à une femme. L'Agence spatiale européenne ne promet pas la parité comme la NASA, mais veut féminiser le corps des astronautes. Aujourd'hui, il ne comporte qu'une seule femme, l'italienne Samantha Cristoforetti.
Sophie Becherel, spécialiste Thomas Pesquet à France Inter. Eux sont déjà sélectionnés. On connaît les 42 bleus convoqués pour le tournoi de rugby des 6 nations avec un Antoine Dupont qui reste capitaine. 7 nouveaux joueurs dont ce sera la première sélection. Et un Mathieu Jalibert forfait pour cause de blessure. Début du tournoi le 6 février. Fabienne avec France-Italie au Stade de France.
Et ben voilà, on sait tout. Merci beaucoup Sébastien. À tout de suite. Bien sûr, vous revenez dans Sous les radars. Vous nous parlerez notamment d'incroyables enregistrements de Ben Ali quand il quitte la Tunisie au tout début de la Révolution avec, on l'entendra, l'intention d'y revenir. Ce soir, nous allons en Turquie, tâcher de mieux comprendre ce que Erdogan fait de ce pays. Pourquoi, surtout, pour répondre à quel besoin, à quelle image ou à quelle grandeur de la Turquie. Puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. France Inter est partenaire de ce formidable documentaire que vous verrez ce soir qui s'appelle Noir en France. Il est signé Alain Mabankou et Aurélia Perrault à travers des témoignages extra très à plat. Il parle de souffrance, de racisme ordinaire, bien sûr, mais aussi d'avenir, d'espoir, d'une France qui n'est pas le pays des bisounours, mais pas non plus un terrain constamment hostile. On sera heureux d'entendre vos témoignages, vos expériences et vos espoirs. À vous aussi, au téléphone sonne au 01 45 24 7000. Allez, un œil sur le ciel.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Une journée bien maussade, voilà ce que vous nous promettez pour demain.
Oui, bonsoir à tous. En effet, ça sera souvent gris demain avec des nuages bas, des brouillards, quelques gouttes de bruine, quelques flocons ou alors temporairement un peu de pluie verglaçante du Limousin et du Massif central jusqu'au Grand Est. Une perturbation très peu pluvieuse s'invitera près de la Manche et puis elle glissera vers le sud et vers l'est en soirée. Et là, elle donnera de petites chutes de neige jusqu'en plaine du Massif central au nord-est. Sur la Provence et la Corse, pas mal de nuages et parfois quelques gouttes. On aura plus d'éclaircies vers la Côte d'Azur, vers le Languedoc-Roussillon et un beau soleil sur les Alpes et les Pyrénées.
Et des températures hivernales.
Avec des gelées le matin, quelques degrés de plus tout de même sur les régions de l'Ouest avec l'arrivée de cette perturbation. Il fera 1 à 5 degrés sur l'Est et le Massif central l'après-midi, 5 à 11 sur l'Ouest jusqu'au nord de la Seine et jusqu'à 14 en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France. Merci Élodie, à tout à l'heure après 19h.